sommes mardi 17 janvier 2023 et vous êtes à l'écoute des programmes du studio Kalangu, l'édition de 17h au micro de Rukaita Abdrahman. Au sommaire, à Ndjindjimi, les responsables des établissements font des plaidoyers auprès des parents pour l'inscription et le maintien de la jeune fille à l'école. La directrice de l'école Dilaram est à suivre dans cette édition. Présentation hier par l'université d'Indiko Dankulodo de Maradi de sa première promotion de docteur pharmacien. Dans ce journal, une jeune pharmacienne explique son choix pour cette profession. En fin d'édition de la partie magazine, on parlera de la loi qui réprime la traite des personnes et qui protège en particulier les femmes et les enfants. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Un peu plus de 5 millions de francs CFA et 3 téléphones portables emportés, c'est le bilan du cambriolage de 2 agences de transfert d'argent Al-Iza et Zeyna de la commune de Tondikandia, région de Tillabéri, selon une source locale. L'attaque a eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi 16 janvier 2023 par des hommes armés non encore identifiés, précise la même source. À Niamey, la police a présenté hier une bande de malfrats démantelée composée de 3 individus. Ils sont spécialisés dans le vol en réunion à main armée contre les agences de transfert d'argent de la capitale, précise la source. La suite de ce journal, la scolarisation de la jeune fille est un élément essentiel dans le développement d'un pays. Elle permet l'autonomisation de celle-ci et son inclusion dans la vie du pays. Madame Issa Kadija Noëlette, directrice de l'école primaire d'Ileram de Ngingimi, incite les parents à inscrire leur fille à l'école. Elle est au micro d'Abdoulaye Meina.
La scolarisation de la jeune fille est très importante. La jeune fille peut étudier comme le jeune garçon. Le travail que l'homme peut faire, la femme peut faire ça également. Et d'ailleurs, l'éducation de la fille est plus productive que celle du garçon, car la jeune fille a son âme, a plus de pitié à ses parents. Si l'on prend l'exemple de la santé, quand la femme vient à la maternité, elle préfère trouver une sage-femme comme elle que de trouver un homme pour la faire accoucher. Et même ses accompagnantes préfèrent voir une sage-femme à la maternité que de trouver un homme. C'est pour cela que je lance un appel aux parents des jeunes filles de tout faire pour inscrire leur fille à l'école, car sans la scolarisation, on ne peut pas être un agent de l'État.
La section pharmacie de la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Indiko Dankulodo de Maradi a célébré hier la sortie de la première promotion des docteurs en pharmacie. Issu de cette première promotion, Dr Fatouma Zakari Hamidou indique que le parcours n'a pas été facile, mais elle ambitionne de poursuivre sa carrière dans la recherche scientifique, un domaine très peu exploité. Elle est au micro de Mohamed Mama.
Nous avons fait notre rentrée en janvier 2015 et aujourd'hui, après 8 ans, on a pu soutenir et puis actuellement, on est sur le marché du travail. C'était un parcours qui était censé durer 6 ans et on a fait 8 ans. Donc, sincèrement, ça n'a pas été facile avec les grèves et tout ce qu'il y a comme réalité dans les universités publiques du Niger. Mais quand même, on a pu tenir le coup. J'ai eu à soutenir en juin passé. Donc, actuellement, je suis au niveau du laboratoire national d'expertise. C'est le domaine de la recherche qui m'anime. Parce que dans le domaine de la recherche, sincèrement, on est en retard. On est en retard par rapport aux pays frères et sœurs. Être pharmacien d'officine, c'est bon, mais quand même, la recherche, on doit exploiter ce qu'on a comme fonds. Il y a assez d'arbres au Niger, donc pourquoi ne pas rendre riche le domaine de la pharmacie traditionnelle et aider les plus pauvres?
Parlons santé dans cette édition. La fièvre typhoïde est une maladie infectieuse récurrente dans les pays du tiers-monde, notamment au Niger. Cette maladie peut avoir des symptômes similaires à ceux du paludisme. Cependant, elles sont différentes. Plus d'explications avec le médecin généraliste Dr Isaka Adamou Abdul Rachid. Il est au micro de Zainab Abdou Saïdou.
La fièvre typhoïde est une maladie infectieuse d'origine bactérienne. Donc, c'est un ensemble de manifestations cliniques que l'on appelle couramment fièvre typhoïde, fièvre entérique, causée le plus souvent par la salmonelle typhi. Le réservoir de ces bactéries est humain. La transmission se fait par l'ingestion d'eau contaminée ou d'aliments contaminés par les défécations d'une personne déjà atteinte. Donc, l'incubation dure en moyenne 8 à 14 jours. Dès la première semaine d'incubation, le patient est contagieux. donc jusqu'à la disparition des signes. Environ 10% des patients non traités excrètent la bactérie. Donc 10% des patients non traités peuvent continuer à être contagieux pendant les 3 mois après leur contamination, et voire même plus. Il faut aussi noter que 2 à 5% de ces patients non traités, leur maladie peut évoluer vers la chronicité.
Autre aspect de ce journal, 10 journalistes des régions de Dosso et de Maradi sont en formation du 15 au 19 janvier à Maradi sur le journalisme en investigation. Une initiative de l'Association des professionnels africains de la communication en collaboration avec l'ambassade des États-Unis au Niger. Moussa Aksar, formateur, indique que la meilleure façon d'informer la population sur la malgouvernance et la corruption, c'est de former les journalistes en investigation qui vont exposer sur la place public le résultat de leur travail. Il est au micro de Aoussi Abdraman.
Notre partenaire et nous-mêmes avons constaté qu'il y a la malgouvernance. Le meilleur canal pour informer la population sur la malgouvernance, sur la corruption, sur les infractions financières, c'est de former des journalistes d'investigation qui vont mettre sur la place publique le résultat de leur investigation, qui sont des recherches approfondies. Au niveau du Maradi, on constate qu'il y a aussi la corruption. Là, on l'a constaté. Il y a aussi des infractions financières. C'est pour cela que nous sommes ici pour outiller les 10 journalistes pour qu'ils puissent prendre ce chemin-là, qui est, c'est vrai, difficile et qui demande beaucoup de rigueur et de recherche pour qu'ils puissent améliorer la gouvernance dans la région de Maradi et qu'il n'y ait plus de corruption.
572 enfants mendiants ont été rapatriés à Tessawa l'année dernière des pays du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest selon la direction départementale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Madame Abdulaziz Saratou de la direction départementale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de Tessawa est au micro de Ilia Moumouni.
L'année passée, nous avons accueilli 572 enfants mendiants refoulés. Nous avons reçu 31 enfants, dont 15 filles et 16 garçons refoulés à partir du Nigeria. 45 enfants refoulés, tous des garçons, en provenance du Ghana. Du Sénégal, nous avons également reçu 269 enfants. Le reste sont du village. La majorité des enfants sont originaires de Korgom et de Awandawaki, particulièrement ceux qui sont refoulés de l'Algérie et ceux qui ont été ramenés du Ghana.
L'harmonisation du régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État et la révalorisation du SMIG sont les deux principales revendications de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN. Elle vient de déposer un préavis de grève de 48 heures à partir du 25 janvier prochain. Un arrêt de travail sera observé sur toute l'étendue du territoire national, précise l'intersyndicale, faute d'un accord avec l'État. Le Conseil des ministres du jeudi 12 janvier a adopté un projet portant ouverture d'un compte spécial au Trésor dénommé Fonds de développement du tourisme FDT. C'est un compte pour financer la promotion du tourisme et les actions du développement du secteur. Anafi Souleyman, directeur général de l'Agence de promotion du tourisme, explique au micro de Omar Hama.
C'est un fonds qui existe depuis 1988. Il est géré par un comité de gestion multisectoriel. Donc ce fonds-là, c'est les recettes qui sont prélevées. Par exemple, la taxe sur la nuitée hôtelière a existé depuis les années 70. Elle est prélevée en réalité sur le client et l'hôtelier ne fait que la reverser. Quand vous arrivez dans un hôtel, à la réception, il est affiché le prix de la chambre majoré de 500 francs. Cette taxe-là, une partie va à la collectivité territoriale et 80% vont au trésor directement dans le compte spécial réservé à ça. Il y a beaucoup de résultats attendus. Par exemple, l'agence de promotion du tourisme, son budget est à 100% pris en charge par le fonds de développement du tourisme. Il y a certaines actions de promotion à l'étranger. Nous allons participer à la foire internationale du tourisme de Madrid et la réunion de l'Organisation mondiale du tourisme. Tout cela est pris en compte sur le FDT.
L'élevage urbain et périurbain se développe depuis quelques années au Niger. Cette activité, le plus souvent pratiquée par les femmes, constitue un pôle important de l'économie nationale. Le bétail coûte cher, il permet ainsi aux éleveurs de tirer profit de l'élevage qu'ils pratiquent, explique le président de la Fédération nationale des éleveurs du Niger, Efnen Dado. Mahamadou Sido est joint au téléphone par Mokhtar Hamadou.
Si ces dernières années, l'élevage urbain s'est développé, c'est que les animaux sont de plus en plus très coûteux. Quand vous avez votre propre élevage, lorsque vous avez quelques difficultés d'argent, il suffit de prendre un animal, vous pouvez régler votre problème. Sans compter que à la Tabaski, vous avez toujours un ou deux béliers, donc vous n'avez pas de souci à aller acheter pendant que les animaux sont très chers. C'est un débouché vraiment important pour les éleveurs eux-mêmes parce que ce sont surtout les femmes qui sont les grandes éleveurs des petits ruminants en zone urbaine. Pour rentabiliser l'élevage urbain, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas focaliser toute l'alimentation sur les fans d'arachide et de niébé, ce que font généralement les éleveurs en zone urbaine. La deuxième chose, il faudrait approcher les services vétérinaires.
Et puis la partie magazine de cette édition. Le Niger a ratifié la loi sur la traite des personnes qui combat et protège en particulier les femmes et les enfants. C'est une ordonnance de 2010 seulement. Selon les spécialistes, cette loi a des insuffisances au regard de l'évolution actuelle du contexte mondial. Madame Goje Maimouna Gazibo, coordinatrice de l'ONG Chronique Juridique, est au micro d'Alamine Ouachar.
C'est une ordonnance intervenue en 2010, mais en 2022, le contexte international a changé. Les formes de traite ont varié. Aujourd'hui, cette ordonnance, même si c'est elle qui est en vigueur, elle a beaucoup d'insuffisances, beaucoup de lacunes qu'il faut prendre en charge. Sur la question spécifique de la femme et des enfants, l'article 3 de l'ordonnance 2010 dispose que l'ordonnance a pour objet de prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Mais en réalité, il n'y a pas tellement de dispositions spécifiques protégeant les femmes et les enfants. En matière de traite des personnes, l'enfant et la femme sont considérés comme étant des personnes vulnérables qu'il faut plus protéger que les hommes. C'est vrai, il y a des victimes de traite hommes, il y a des victimes de traite femmes, il y a des victimes de traite enfants, mais on enregistre beaucoup plus des enfants, à peu près 70% dans le monde. Ensuite, c'est les femmes. Il y a des formes de traite qui concernent les hommes, comme par exemple le travail forcé. C'est pour ça qu'il est important de réadapter la législation. Pour un pays comme le Niger, la forme de traite la plus répandue, c'est d'abord la mendicité. Or, quand vous rentrez dans les rues du Niger, sur 10 mendiants, 8 sont des enfants. La mendicité des hommes, ça existe, mais le plus souvent, c'est vraiment les vieillards, les personnes en situation de handicap. Si on doit revoir l'ordonnance sur la traite, il faut prévoir un chapitre pour la traite des enfants, un chapitre pour la traite des femmes, avec des circonstances aggravantes quand la victime est enfant, pour les femmes enceintes, pour les femmes malades, ainsi de suite.
Quelle est la première forme de traite au Niger?
La première forme de traite, c'est la traite des enfants, et vous voyez dans les rues du Niger. Ensuite, les femmes de plus en plus, vous avez des très jeunes femmes qui viennent des contrées lointaines, qui descendent sur les grandes villes pour s'adonner à la mendicité. Or, à l'intérieur de l'ordonnance sur la traite, on ne prend pas spécifiquement en charge ces volets-là, de manière contextuelle. Il faut que l'ordonnance sur la traite soit revisitée pour tenir compte des formes de traite les plus courantes au Niger, les plus répandues, et définir certaines nouvelles formes qui apparaissent de plus en plus.
Quelle est la forme de traite la plus répandue au Niger?
La forme de traite la plus courante et répandue au Niger, c'est quand même l'exploitation de la prostitution. Aujourd'hui, quand vous sortez à 19h-20h dans les grandes villes, c'est vraiment des très jeunes filles qui sont versées dans la prostitution. Avant, on pensait que seuls les analphabètes et les femmes non éduquées faisaient la prostitution. Même la pratique de la prostitution en 2022, ça a évolué. Vous allez trouver des prostituées de luxe, vous allez trouver la prostitution au niveau des étudiantes, au niveau des fonctionnaires. Donc, il faut que les lois tiennent compte de l'évolution.
C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À 18h15, vous aurez le forum Espace Femmes qui est une rediffusion sur le thème « Comment la femme atteinte de drépanocytose exerce-t-elle son travail » avec Rafika Taher. Dans un instant, le journal en tamashek avec Tanan Foudé Ahmed. Très bonne suite de réception et au revoir.
Studio Kalangu.
À Difa,
Alternative FM 99.4 MHz à Zender,
Gaskia FM 89.5 MHz à Maradi,
Saraunia FM 102.1 MHz à Kyoto,
Bonferé Fuma 99 MHz.
Studio Kalangu.